France Inter. Midi et demi, 14h, le grand rendez-vous.
Et dans le grand rendez-vous, jusqu'à 14h maintenant, c'est comme tous les jours, l'heure de retrouver le virus au carré avec Mathieu Vidard, son invité, et vos appels pour témoigner et poser vos questions au 01 45 24 7000. Mathieu, bonjour.
Bonjour Pierre.
Mathieu, on parle aujourd'hui de la perte des liens tactiles pendant le confinement.
Oui, avec cette drôle de période de distanciation et d'hygiénisme social qui nous a fait basculer très rapidement dans l'ère du sans-contact physique. Depuis le début de la crise sanitaire, la peur du virus nous maintient corporellement à distance avec des gestes barrières qui portent parfaitement leur nom en dressant entre nos corps une sorte de frontière invisible qui repousse le toucher. Dans un article publié sur le site The Conversation, le professeur Fabienne Martin-Juchat se demande si le coronavirus n'annonce pas l'avènement d'une culture de la socialité sans corps, à distance, caché derrière des écrans et au prix d'une souffrance silencieuse de la disparition de la tendresse. Nous savons pourtant que le contact corporel est absolument essentiel à l'humain. Selon les scientifiques, le toucher serait d'ailleurs le premier lien d'affection et d'appartenance entre les êtres humains, bien avant le langage. Sébastien Boller, le rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho, raconte que le fait de pouvoir se tapoter sur l'épaule, serrer le coude d'un ami, de caresser sa compagne ou son compagnon, eh bien tout cela compose le socle de notre sentiment de réassurance par le lien social. Et dès le berceau, les bébés que l'on dorlote en les caressant, les câlinant, semblent connaître un développement cérébral plus harmonieux. Ils sont moins vulnérables au stress. Ils produisent plus de récepteurs de la sérotonine, le fameux neuromédiateur du bonheur. Et les accolades et les embrassades auraient même un rôle protecteur en renforçant nos défenses immunitaires. Fabienne Martin-Juchat rappelle à quel point le contact physique ritualisé crée une sécurité relationnelle essentielle et un besoin vital, quel que soit l'âge. Au fil de la vie, Pierre, le maintien de la distance face à un étranger constitue pour l'humain une sorte d'apprentissage. Et la Covid-19 requiert l'effort durable par la maîtrise de nos mouvements physiques de contenir ce qui semble souvent un élan spontané d'accueil d'autrui. Cela dit, poursuit Fabienne Martin-Juchat, passé la crise, la réassurance que procure le contact physique dans les relations devra se réinventer pour signifier et soutenir l'entraide, la coopération, la confiance, le bien-être et la joie. En attendant, se toucher et manifester son empathie comme avant n'est plus possible pour le moment et de nombreuses personnes en souffrent, comme les personnes âgées dans les maisons de retraite, privées du contact direct avec leurs proches. Les soignants doivent aussi de leur côté réinventer les gestes professionnels afin de se protéger du virus. Drôle de période où l'un des gestes barrières qui nous est recommandé par les autorités sanitaires est d'éviter de nous toucher le visage afin de ne pas offrir la porte d'entrée au virus alors que nous passons nos journées sans nous en rendre compte la main au contact de notre peau. La perte des liens tactiles, donc on en parle, Pierre, avec notre invité.
Absolument, Mathieu. Bonjour Bernard Andrieux.
Bonjour.
Bernard Andrieux, vous êtes philosophe, professeur en épistémologie du corps et des pratiques corporelles à l'Université de Paris et vous avez publié en 2018 « La langue du corps vivant » aux éditions Vrin. Les auditeurs nous rejoignent maintenant, s'ils le veulent, pour parler de ces contacts corporels bouleversés par la crise que nous traversons en nous appelant 01 45 24 7000. Mathieu, une première question.
Oui, Bernard Andrieux, comment est-ce que vous observez cette distanciation corporelle qui a déjà pris toute sa place dans notre espace? Quels pourraient être finalement les impacts de ce que nous vivons en ce moment sur nos relations à l'autre? Et est-ce que vous y voyez quelque chose de durable ou au contraire de temporaire?
Oui, tout à fait, Mathieu. Je pense que l'enjeu, c'est de redéfinir l'espace intercorporel entre les personnes et que cet écart, finalement, entre moi et autrui, autrefois, il était comblé par un certain nombre de rituels, de convenances, de conventions, de gestes qu'on pouvait finalement établir des relations. Et donc là, on voit se mettre en place, en fait, une sorte de barrière invisible qui va permettre de recomposer le mouvement, à la fois le schéma corporel, mais aussi l'image du corps, c'est-à-dire le regard qu'on va adresser à autrui. Et le fait de maintenir cette distance va permettre de progresser finalement dans une nouvelle forme de toucher visuel, ce qui est paradoxal.
On va aller au standard, Mathieu. Des questions pour notre invité, c'est Gérard qui est en ligne avec nous. Bonjour Gérard.
Bonjour Mathieu Vidard.
Oui. Bonjour.
Je vous appelle parce que si je comprends très bien la justification de ces gestes barrières compte tenu de l'épidémie, le problème c'est que sans contact corporel, c'est-à-dire soit la poignée de main ou l'embrassade selon la nature des relations que l'on a avec autrui, personnellement, je suis non-voyant et c'est extrêmement difficile donc de rentrer en contact, de saluer les personnes, de saluer vous avez éventuellement le regard. Mmh. Alors, ce qui me préoccupe, bon, c'est compte tenu de la situation actuelle, c'est parfaitement justifié. Ce qui m'inquiéterait, c'est que on s'incommode de cette situation. Et que il n'y ait plus à l'avenir du tout de contact corporel, quoi. Un peu comme les Asiatiques, vous voyez.
Gérard, on va vous répondre. Bernard Andrieux.
Oui, je crois que la question est bienvenue parce que justement l'idée c'est qu'on peut quand même utiliser le corps de manière différente. Hein. Le cas de la cécité pose bien aussi la question que, bien évidemment, le fait de ne pas avoir à toucher le visage ou la main pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que embrasser quelqu'un. Je veux dire, on peut très bien aussi avoir des contacts corporels pour manifester ses émotions, pour montrer justement les degrés d'intention que l'on a sur autrui sous forme de contact. C'est-à-dire que il faut bien préciser qu'on pourra quand même toucher le corps des autres, mais la question c'est surtout les parties qui peuvent déclencher cette contamination. Il ne faudrait pas qu'on mette en place une sorte d'hygiénisme social dans lequel finalement il n'y aurait plus du tout de toucher.
Je voudrais vous lire un appel, un courriel qu'on a reçu sur le site de l'émission. C'est Andréa. Elle dit « J'ai 85 ans et je m'étonne de cette familiarité qui s'est établie entre les gens, ce besoin de se tâter, de se caresser, de se toucher. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. »
Oui, dans une certaine mesure, on peut dire qu'aujourd'hui, on passe beaucoup par le toucher parce que c'est aussi, Mathieu le précisait tout à l'heure, en citant les travaux des psychologues, c'est aussi une façon aujourd'hui de réestime de soi, de ressentir la présence de l'autre parce qu'on vit dans des sociétés de plus en plus visuelles, de plus en plus qui passent par des écrans. Et donc le recours effectivement au toucher apparaît nécessaire pour prouver une dimension incarnée, in situ, un contact réel avec les autres. Et donc il y a aussi une recherche exaltée finalement de ce contact, de ce toucher, parce que sans contact physique, finalement, la question se pose de savoir si notre corps ne deviendrait pas totalement virtuel.
Mathieu, allez-y, une question.
Oui, Bernard Andrieux, on parlait des personnes non-voyantes, il y a aussi des personnes sourdes. Le port du masque en ce moment, c'est une véritable catastrophe pour ces personnes, parce qu'évidemment, elles ont besoin de lire sur les lèvres, et là, ça n'est plus possible non plus.
Alors, la communauté a inventé des masques transparents, hein, voilà, première solution technique, qui permettent de lire sur le mouvement des lèvres. Et effectivement, le problème du fait d'utiliser peut-être des visières ou en tout cas des masques qui permettent de voir l'expression aussi du visage. Parce que bien sûr, il y a l'expression des lèvres, mais il y a aussi l'expression du visage. Quand vous mettez un masque aujourd'hui, vous cachez quasiment la totalité du langage corporel. Du visage. Donc la question, c'est effectivement pouvoir utiliser d'autres moyens pour exprimer à travers aussi son corps, à travers ses mains, à travers sa posture, effectivement un certain nombre de significations.
Beaucoup de questions au standard au 01 45 24 7000. François est avec nous, il nous écoute et veut participer à l'émission. Bonjour François.
Bonjour France Inter, bravo France Inter et votre équipe. Moi, ma remarque, elle porte sur les mots. Je crois que les mots que l'on utilise ont une énorme importance parce que ils le transmettent plein de messages un petit peu sous-jacents. Mmh. Et le mot de distanciation sociale est une catastrophe. Mathieu Vidard l'a employé tout à l'heure à nouveau, et je crois que c'est dommage qu'il continue à employer ce mot-là, parce que justement, cette communication gouvernementale qui était basée sur ce mot a été modifiée hier. Le Premier ministre a parlé de distanciation physique. C'est bien de distanciation physique dont il faut parler, ou de distanciation tout court, ou de distance de sécurité, mais pas de distanciation sociale, parce que au contraire, le fait de respecter une distance, c'est une action, c'est un acte de rapprochement social. en gardant ma distance d'un mètre, je préserve l'autre de le contaminer, je le préserve qu'il me contamine, et en même temps, je suis solidaire. Donc on est tous solidaires, donc on est dans un rapprochement social qui est nécessaire dans le cadre de cette pandémie. Et donc au niveau psychologique, quand on parle autour de soi, quand on est psychologue, je pense qu'on doit être très conscient de du mauvais choix de ce mot, et parlons de distanciation tout court, et surtout pas de distanciation sociale.
Parfait. François, Mathieu Vidard vous répond.
Bah écoutez, moi je suis d'accord, tout à fait. D'ailleurs, c'est un mot qu'on emploie et qui alterne très souvent, mais c'est vrai que la distanciation physique exprime exactement ce que nous vivons aujourd'hui, et les mots dans ce rapport au corps, Bernard Andrieux, sont extrêmement importants à l'heure actuelle.
Au standard, Sylvaine est avec nous. Sylvaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans l'heure ?
Oui, je suis à Évreux dans l'heure. Moi, je suis un petit peu atypique et sans doute dans la droite ligne de André, 85 ans, qui est intervenu tout à l'heure. Moi, j'ai 65 ans. Je déteste qu'on me touche, donc ça m'arrange bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, ce qui va me gêner, c'est le fait de ne pas serrer la main parce que c'est ma façon de dire bonjour. Mais comme André, cette manie de se faire la bise, y compris avec des gens qui ont un regard meurtrier, qui n'ont rien à faire de vous, me dérange. Donc j'ai un prétexte tout trouvé maintenant. Je vais dire que je garde mes distances. Bon, effectivement, par respect pour les autres, mais honnêtement, ça m'arrange.
Bernard Andrieux, que pensez-vous de cette opinion de Sylvaine ?
C'est un ressenti, hein, c'est pas une opinion. Hein.
Oui, mais...
Un ressenti, fait, attention aux mots aujourd'hui.
Dans les différentes formes de culture, on sait très bien que le fait de garder ses distances est aussi l'expression de mode de civilité, de socialité, de comment on va s'associer avec les autres. Et les sociologues ont montré qu'en fonction des cultures, la distance physique, c'est aussi une distance sociale. C'est-à-dire que le fait d'être très proche de quelqu'un va manifester une relation peut-être d'intimité, alors que le fait de se tenir à 50 cm, à 1 mètre ou à 3 mètres, je pense aux travaux notamment d'Edouard Hall, qui avait travaillé ça dans les différentes cultures, on voit effectivement que ça exprime comment on veut se socialiser avec les autres, comment on veut faire respecter aussi son intégrité corporelle. Et c'est dans un débat contemporain sur qu'est-ce que c'est que l'intimité, qu'est-ce que c'est que le soi, et dans aussi les conséquences aujourd'hui du confinement sur les violences aux personnes, etc. C'est très important de dire que la distance, c'est aussi un moyen de poser une certaine forme de socialité.
Véronique, écoute France Inter. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour et merci beaucoup de prendre ma question. Je vous remercie beaucoup pour vos émissions.
Merci.
Et puis je dis bonjour à Bernard Andrieux et à vous-même et à tout le monde. Voilà, je vous appelle du Lot-et-Garonne. Je suis formatrice et tout ce qui concerne les expressions du visage est tellement important et je me demande comment on va les exprimer. Et j'ai très peur d'une certaine déshumanisation un peu de la société. On ne voit plus de bouche dans les magasins, on ne voit plus de lèvres, on ne voit plus de sourire. J'ai peur aussi que les robots plus ou moins remplacent tout ça. Et quand on connaît la qualité et l'impact du toucher sur les souffrances physiques et psychiques des personnes, je vois pas trop bien comment, avec une distance si importante et des masques partout, ça va peut fonctionner. Je crains vraiment, en gros, une déshumanisation de tout ça.
Bernard Andrieux vous répond, ce risque de déshumanisation ?
On peut penser que, et là c'est peut-être une hypertrophie de la société contemporaine, hein, au temps de Facebook, hein, vous voyez de quoi est fait Facebook, hein, de la question du visage. Donc bien sûr on peut penser que tout passe par l'expression faciale, mais en réalité tout le corps est engagé dans l'expression. La posture, la manière de l'inclinaison du corps, l'engagement du corps, le retrait, on va pouvoir manifester et redévelopper justement cette langue du corps vivant, puisque notre corps est toujours vivant, il exprime des émotions internes qui vont passer au travers, et que bien sûr, si on a certaines zones qui sont cachées, eh bien, on peut utiliser aussi d'autres formes d'expression. Donc, il n'y aura pas de déshumanisation, il y a peut-être simplement le fait, comme dans la tradition, Lévi-Strauss avait fait tout un travail sur les masques,
Le masque, justement, ça va être un moyen, finalement, de par sa décoration aussi, par la manière de l'incarner, d'être présent, de pouvoir aussi dire quelque chose de sa position personnelle.
Mathieu Vidard, une dernière question ?
Oui, c'est pas une question, c'est pour réagir à ce que vient de dire notre auditrice, parce que je l'observe aussi, et vous certainement, la disparition des sourires dans les regards aujourd'hui. On observe cette peur et cette fuite finalement des regards, alors qu'on aimerait finalement que ce qu'on vit de cette distanciation physique soit compensé au contraire par une sorte de lumière dans les yeux. Et ça semble un peu disparaître ça en ce moment. Est-ce que vous l'observez, Bernard Andrieux ?
C'est-à-dire que c'est la peur, hein, c'est ce qu'on a appelé l'aptophobie, hein, c'est-à-dire vraiment la crainte, y compris bien évidemment dans la proximité, hein, la peur de la contamination, d'être touché par l'autre, hein, de ne pas savoir, de vivre dans l'incertitude. Et donc, bien évidemment, il faut réinventer une confiance, hein, déjà avec l'autre, et aussi une évaluation pour soi-même de qu'est-ce que je vais engager comme émotion. Les gens ont du mal à se dire bonjour, à discuter avec la caissière ce matin au supermarché. Voilà, il y a une réhumanisation à engager qui est tout à fait possible à partir du moment où on respecte effectivement ces règles de sécurité.
Le virus au carré, c'était Mathieu Vidard avec son invité aujourd'hui. Merci Bernard Andrieux, je rappelle, philosophe, professeur en épistémologie du corps et des pratiques corporelles à l'Université de Paris.